how electricity really works.
Ener Coop, c'est une alternative à EDF, un fournisseur, je cite, « éthique d'électricité écologique ». Pour en savoir plus, on a rencontré Guillaume Jourdain, directeur général d'Ener Coop Nord-Pas-de-Calais Picardie. Il commence par nous parler des débuts d'Ener Coop.
Ener Coop, c'est une émanation d'une quarantaine de structures, d'associations ou entreprises de l'économie sociale et solidaire, des établissements financiers comme la NEF ou le Crédit Coopératif qui ont vocation à financer des projets sociaux et environnementaux. Ce sont des associations de défense de l'environnement comme Greenpeace ou les Amis de la Terre, ou encore des enseignes de consommation comme Biocoop, qui se sont groupées, voilà, en tout une quarantaine de structures qui se sont groupées en 2005 au moment de l'ouverture du marché de l'électricité pour proposer un acteur sur ce marché qui soit conforme à leurs valeurs. 2005, c'est la fin du service public et du monopole d'État d'EDF sur la fourniture d'électricité. Et donc tous ces acteurs ont souhaité proposer un nouveau modèle qui soit conforme à leurs valeurs.
Qui dit conforme à leur valeur, dit sans énergie nucléaire, c'est ça oui. La base aussi d'Ener Coop.
Il y a trois grandes particularités à Ener Coop, donc fournisseur d'électricité, vous l'aurez compris. La première, effectivement, c'est qu'on est aujourd'hui le seul fournisseur en France à s'approvisionner directement et à 100% auprès de producteurs d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que tout ce que consomment nos clients est injecté sur le réseau d'électricité par des producteurs d'hydroélectricité, donc on utilise la force de l'eau, des producteurs éoliens, avec la force du vent, et des producteurs d'énergie photovoltaïque qui donc injectent pour nous leur production d'électricité. Ça, c'est la première grande particularité. Et donc, on est en fait le seul en France à pas du tout acheter d'énergie d'origine charbon ou d'origine nucléaire. Voilà. Deuxième particularité, c'est le statut coopératif. Nous sommes organisés en société coopérative d'intérêt collectif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la coopérative appartient à l'ensemble des parties prenantes qui peuvent s'impliquer dans le projet. Concrètement, nous avons nos consommateurs peuvent, s'ils le souhaitent, prendre des parts sociales et avoir un droit de vote en assemblée générale, voire être représentés au conseil d'administration de la coopérative. C'est le cas des producteurs aussi. Les producteurs qui nous revendent leur électricité ont des parts sociales et ont un droit de regard sur la gouvernance de la coopérative. Nous avons d'autres collèges aussi. Les salariés sont impliqués, les partenaires. L'idée, c'est vraiment d'associer toutes les parties prenantes dans un multisociétariat démocratique et transparent. C'est en plus une structure à but non lucratif, c'est-à-dire que notre objectif, c'est quand même bien sûr de réaliser des bénéfices, mais ces bénéfices-là sont réinvestis dans l'objet de la coopérative qui est le développement des énergies renouvelables. Ça, c'est la deuxième particularité. Et la troisième, c'est le fait de travailler à une reterritorialisation de l'énergie. Et nous créons du coup, le modèle Ener Coop est à l'origine nationale, et puis depuis 3 ans maintenant, nous recréons ce modèle à une échelle régionale. C'est comme ça qu'on a créé, nous, en 2011, Ener Coop Nord-Pas-de-Calais-Picardie, avec l'objectif de produire dans la région ce qui est consommé par nos consommateurs dans la région, d'être plus près de nos sociétaires, de travailler avec les collectivités. Voilà, aujourd'hui, on a 6 coopératives régionales qui ont vraiment reproduit ce modèle-là à une échelle plus locale.
On va reparler des territoires dans un instant, mais avant ça, quand même, à la base, finalement, pourquoi refuser l'énergie charbon ? Pourquoi refuser l'énergie nucléaire ?
Il faut faire un petit bilan contextuel, c'est qu'aujourd'hui, il y a un contexte environnemental, avant tout, qui est celui notamment du réchauffement climatique, qui a encore été réaffirmé par les experts du GIEC ces derniers jours. On sait aujourd'hui que l'activité humaine a un vrai impact sur le réchauffement climatique, et notamment la production et la consommation d'énergie. Je pense notamment à l'énergie, la production d'électricité depuis le charbon, qui est très fortement émettrice de CO2, donc de gaz à effet de serre, et donc du réchauffement climatique. Il devient impératif pour protéger la planète de trouver d'autres modes de production. Quant au nucléaire, c'est différent. Il est assez peu, finalement, émetteur de CO2. Il ne faut pas le cacher. Il a d'autres effets bien plus, pas plus pervers, mais tout aussi pervers, notamment le fait qu'on est dépendant d'un approvisionnement en uranium. Nous n'avons pas d'uranium ici en France. Il faut aller le chercher au Niger, en Australie. On est vraiment dépendant de l'importation d'uranium. Et puis, il y a bien sûr le danger lié à l'exploitation de cet uranium, notamment le danger pour les générations futures. Alors, il y a déjà des dangers actuels, on l'a malheureusement vu avec Fukushima, mais aussi la question de la gestion des déchets, qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui résoudre. Donc, il est grand temps de promouvoir d'autres modes de production d'énergie qui soient plus pérennes, plus durables, moins dangereux pour la santé et pour l'avenir de notre planète. Et dans ce sens-là, les énergies renouvelables nous paraissent la voie à suivre le plus urgentement possible.
Donc ça, c'est des raisons environnementales, ouais. Il y a aussi des raisons sociales.
Il y a aussi des raisons sociales, j'en ai déjà dit un mot, le fait qu'on soit dépendant d'un approvisionnement en uranium, c'est-à-dire que c'est une ressource que nous ne maîtrisons pas. On peut toujours se retrouver privé d'approvisionnement ou être en dépendance par rapport au prix du marché de l'uranium. Et il y a aussi le fait que, toujours lié au nucléaire, les centrales nucléaires françaises avaient une durée de vie initiale de 30 ans. Elles arrivent toutes plus ou moins à cette durée de vie. Donc il va falloir soit prolonger leur durée de vie, mais ça a un coût et qui n'a pas été correctement provisionné par EDF notamment, soit commencer à les démanteler, et c'est pareil, ça a un coût très élevé. Donc, si vous voulez, on arrive dans une période où le nucléaire finalement coûte de plus en plus cher à cause de ces coûts cachés, on va dire, de démantèlement ou de rénovation et de gestion des déchets, tandis que les énergies renouvelables, avec la maîtrise de la technologie, coûtent de moins en moins cher. Le kilowattheure issu de l'énergie éolienne coûte aujourd'hui 10% moins cher qu'il y a 3 ans. On est tout le temps en train de progresser. Le photovoltaïque est en grande progression aussi depuis quelques années. Donc on arrive vraiment à une période où les énergies renouvelables vont devenir plus rentables économiquement aussi, et pas uniquement écologiquement, plus rentables pour la production d'électricité.
On parle de la fourniture d'électricité par Enercoop. Oui. Comment vous faites finalement pour donner de l'énergie propre à vos clients, parce qu'il y a un seul et même réseau d'électricité en France?
Aujourd'hui, toute l'électricité qu'on injecte pour nos clients se mélange à toutes sortes d'électricité dans le réseau. C'est-à-dire que moi qui suis consommateur Enercoop depuis des années, j'ai la même électricité dans mon ampoule que mon voisin qui est probablement encore chez EDF ou un concurrent. Donc l'équilibre se fait autrement, il se fait en fonction de la facture. Vous savez que si vous avez consommé 3000 kWh dans l'année, il y a 3000 kWh qui ont été injectés pour vous dans le réseau. Ce n'est pas vous qui les avez consommés, l'électron est paresseux, hein, il s'arrête le plus proche du point où il est injecté. Et voilà, il n'y a pas de traçabilité physique, il y a une traçabilité financière. On assure, nous, on garantit à 100% à nos consommateurs que tout ce qu'ils ont consommé a été compensé par une injection d'énergie verte dans le réseau. Et donc le raisonnement est simple, plus on a de clients, plus on pourra injecter d'énergie verte dans le réseau. Aujourd'hui, on s'appuie pour ça sur un réseau de producteurs indépendants. Donc, nous ne sommes pas encore nous-mêmes producteurs d'électricité. Ce sont des producteurs indépendants qui ont des petits barrages hydroélectriques, j'en parlais tout à l'heure, des petites sociétés qui ont des petits parcs éoliens, voire des petites éoliennes, ou alors des particuliers ou des entreprises qui ont des centrales photovoltaïques. Voilà, ce sont ces gens-là qui ont choisi de revendre leur production à Enercoop.
Alors, dans la région, comment ça se passe? Parce que la plupart des producteurs d'électricité propre, oui, sont plutôt situés dans le sud, hein, si j'ai bien compris.
Aujourd'hui, effectivement, l'électricité propre, c'est en majorité l'électricité d'origine hydroélectrique. Et nous, dans la région, nous avons un potentiel très faible. On a un relief plat, donc pas de chute d'eau, et donc pas de gros potentiel de production hydroélectrique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'approvisionnement d'Enercoop en général se fait plus par des barrages un peu plus importants. Alors ça reste des barrages qui appartiennent à des particuliers, hein, ou à des petites sociétés. Je tiens à préciser que ce sont des barrages de petite taille. Mais c'est vrai que l'approvisionnement provient en majorité de cette production-là. Néanmoins, on a quand même l'objectif dans la région de produire, encore une fois, d'acheter ou de produire directement dans la région ce qui est consommé dans la région. Et on n'en est pas si loin que ça. On a regroupé les deux régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Il s'avère qu'on a deux petites centrales hydroélectriques qui sont d'anciens moulins qui tournent pour nous dans l'Aisne. On a une éolienne qui tourne pour nous sur l'aire d'autoroute de la baie de Somme. Nous avons un toit photovoltaïque qui produit aussi pour le compte d'Enercoop à Los Angeles. Et finalement, plus quelques petites éoliennes à droite à gauche, finalement on est plus si loin de pouvoir alimenter déjà nos consommateurs dans la région. Voilà. Mais l'objectif, c'est bien à terme et d'exploiter le potentiel notamment éolien. Hein. On est dans une région à très fort potentiel éolien avec la façade maritime et des vents assez réguliers qui viennent de l'ouest. Donc on a quand même un potentiel éolien qu'on peut encore éolien pardon, qui mérite encore d'être exploité. C'est ce qu'on va faire dans les années à venir pour vraiment créer un circuit court et essayer vraiment d'aboutir à un équilibre entre la production et la consommation d'Enercoop dans la région.
Alors pourquoi c'est important aussi de créer des circuits courts? C'est pour justement économiser l'énergie, pour éviter qu'elle se perde?
C'est effectivement la raison principale. Aujourd'hui, la principale perte d'énergie se fait dans son transport. Et on estime à peu près à 20% la perte d'énergie entre la centrale nucléaire de Gravelines et les points de consommation métropolitains, par exemple. Je pense qu'entre Dunkerque et Arras, on doit à peu près arriver à une perte de 20-30% sur les transports. Nous, on travaille effectivement plutôt à une décentralisation des moyens de production, que les moyens de production soient adaptés à leur territoire, effectivement pour limiter les pertes, mais aussi pour sensibiliser les habitants d'un territoire aux enjeux liés à l'énergie. Je prends souvent l'exemple un peu caricatural de mes grands-parents, pour lesquels l'électricité vient du mur. On ne se pose pas trop de questions, elle est abondante, elle n'était pas chère jusqu'à il y a quelques années, et donc les gens ne se posent très rarement la question, à moins d'habiter à côté de Gravelines. Mais les gens se posent assez rarement la question de la provenance de l'électricité. Mais de plus en plus, la question se pose. Et donc l'idée, c'est de vraiment que les gens puissent s'apercevoir que produire d'électricité, ça a un coût. Il faut faire attention à la façon dont on la consomme, il faut faire attention à la façon dont on la produit. Et ça permet, cette décentralisation, bien sûr, de limiter les pertes liées au transport, mais aussi de sensibiliser les populations environnantes.
On est toujours en compagnie de Guillaume Jourdain, directeur général d'Enercoop Nord-Pas-de-Calais Picardie.
Enercoop, c'est une alternative à EDF,
oui.
Alternative à un service public à la base. Comment vous voyez ça? Parce que du coup, c'est un concurrent, un service public.
Oui.
Quelle vision de la gestion d'énergie vous avez par rapport à ça?
EDF n'est plus un service public. Hein. Elle appartient encore en partie à l'État, mais seulement pour partie. Elle répond pour beaucoup à des enjeux ou des exigences des actionnaires privés. Hein, EDF est coté en bourse, et donc il y a vraiment une exigence financière qui est assez éloignée de ce que ça pouvait être en tant que service public. Nous, sur le fond, certains d'entre nous, en tout cas, il y a toujours des débats assez vifs, mais on n'était pas tous opposés au service public. Hein, on considère que l'énergie, l'électricité, est un besoin essentiel pour la population, et donc doit effectivement répondre à un enjeu collectif et de société. Simplement, face à ce constat de la fin du service public d'EDF, nous on a souhaité proposer, substituer en tout cas à ce service public qui disparaît, un service citoyen. C'est pour ça que nous sommes constitués en coopérative, c'est pour que les consommateurs, le public puissent avoir leur mot à dire sur la gouvernance de notre structure. Voilà, remplacer cette notion de service public par une autre notion qui est d'ailleurs tout à fait largement développé en Allemagne ou en Belgique. En Allemagne, il y a 800 coopératives, hein, comme la nôtre, dans lesquelles les habitants des territoires peuvent investir selon leurs propres moyens. Parce que je rappelle que le principe coopératif, c'est que le droit de vote n'est pas proportionnel à son apport. Hein. Donc chez nous, un consommateur qui a une part sociale, qui coûte 100 euros, a le même droit de vote qu'un consommateur qui a 15 parts sociales. Hein. Donc chacun, selon ses moyens financiers, peut investir et surtout peut s'investir en tant que citoyen, donner son avis, son droit de vote, sur les grands choix de la coopérative. Voilà. Il faut savoir aussi que, je parlais des actionnaires privés d'EDF, nous avons donc des sociétaires, on ne parle pas d'actionnaires, on parle de sociétaires, et leur objectif n'est pas de dégager des grands dividendes. Nous, on peut, si l'Assemblée Générale le décide, nous pouvons distribuer des petits dividendes en fin d'année à nos sociétaires, mais ils sont limités par la loi, par nos statuts qu'on a choisis, environ 3%. Donc c'est vraiment quelque chose, un outil qui n'est pas spéculatif, qui ne répond pas aux enjeux de quelques-uns, mais qui doit vraiment recueillir l'adhésion à la fois des producteurs d'électricité, des consommateurs d'électricité, des salariés de la coopérative. L'idée, c'est vraiment de trouver, de répondre à une exigence collective plutôt qu'à une partie plutôt qu'une autre.
On parle des producteurs auprès desquels vous achetez oui. De l'énergie. On en a parlé un petit peu, barrages hydrauliques, éoliens. Mais qui sont-ils ? Est-ce que moi, par exemple, qui ayant un projet d'éolienne au fond de mon jardin, oui. est-ce que je peux faire appel à vous et vous vendre de l'énergie ? Comment ça se passe ?
Oui, les cas de figure sont différents selon le type d'énergie concernée. En ce qui concerne le petit éolien dans le jardin, alors il faut que vous ayez un grand jardin, il faut que l'éolien soit quand même à une certaine hauteur parce que le vent il faut aller chercher en hauteur hein. Dès qu'il y a des perturbations le vent est beaucoup moins puissant ou alors beaucoup plus aléatoire et donc là on arrive à une production très petite. Dans le cas où votre terrain est effectivement adapté, qu'il y a du vent et que l'éolienne fait au moins 12-15 mètres de hauteur, on peut effectivement, d'ailleurs on est un des seuls à proposer un tarif d'achat. Ce qu'on propose quand même, c'est assez innovant, c'est dans ce cadre là hein, c'est ce qu'on essaie de faire avec quelques agriculteurs, c'est que d'abord, en premier lieu, il est important que la production de cette machine soit autoconsommée, c'est-à-dire qu'elle soit consommée sur place par l'agriculteur. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'acheter uniquement le surplus, ce qui n'est pas consommé directement par l'agriculteur, ce qui est par exemple produit la nuit par l'éolienne, alors qu'il y a très peu de consommation. Nous, on achète vraiment le surplus pour proposer un mécanisme de soutien à cet agriculteur. Donc voilà, on fait ça. C'est un peu plus difficile sur le photovoltaïque. On a beaucoup de particuliers ou d'entreprises qui ont des panneaux photovoltaïques aujourd'hui chez eux. Ils peuvent bénéficier de tarifs en obligation d'achat de la part d'EDF. Ce sont des tarifs avantageux qui permettent de rentabiliser en général l'installation en 7, 8, 10, 12 ans grand maximum. Ça dépend de la taille de l'exploitation. Il faut savoir que nous, on ne peut pas proposer les mêmes tarifs d'achat qu'EDF. Nous n'avons pas l'aide. Le mécanisme de soutien de l'État ne nous est pas reversé. Donc on peut pas, là-dessus, on peut difficilement concurrencer EDF, mais ça ne nous pose aucun problème. On a une relation EDF qui est quand même assez particulière. Vous disiez tout à l'heure, on est concurrent. Bon, je pense qu'en France, hein, Enercop, c'est 17 000 consommateurs, EDF, c'est 30 millions. Donc je ne sais pas si on peut parler de concurrence. Nous, on essaie plutôt de montrer que notre voie est possible. Et en tout cas, on est très contents. Certains de nos clients nous disent, j'ai un panneau photovoltaïque, j'ai des panneaux photovoltaïques sur mon toit, j'aimerais les revendre à Enercop. Nous, on leur conseille de revendre à EDF plus cher pour pouvoir plus vite rentabiliser leur installation. Mais peu importe, l'important, c'est qu'il y ait plus d'énergie renouvelable dans le réseau. Donc nous soutenons aussi tous les particuliers qui veulent mettre des panneaux photovoltaïques, même si ça n'a pas vocation à alimenter nos clients.
Vous parliez d'énergie éolienne et vous avez parlé de l'exemple des agriculteurs, hein, qui doit être l'exemple le plus courant, j'imagine. Dans ce domaine, c'était un petit peu le Far West, quoi. C'est-à-dire, chacun pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait. Les gros producteurs venaient acheter, réserver leur parcelle de terrain. Qu'en est-il aujourd'hui ? Et peut-être on peut parler de l'exemple du sud arrageois.
Oui, il y a plusieurs exemples. C'est vrai que aujourd'hui, on s'appuie, nous, Enercop, sur un réseau de producteurs indépendants, dont je vous parlais tout à l'heure. On a vocation aussi, nous-mêmes, à devenir producteurs de notre propre propriétaire de nos moyens de production. Mais pas propriétaire tout seul, propriétaire avec les habitants du territoire concerné. L'idée, justement, c'est d'éviter les concurrences, les bagarres entre les développeurs éoliens qui réservent des parcelles de territoire, parfois au détriment d'un agriculteur plutôt que d'un autre. Donc, il y a dans les villages ou dans les zones favorables à l'éolien, voilà, comme vous disiez, le mot Far West, c'est ça. Hein. Vraiment, les développeurs courtisent un peu les maires des communes et les agriculteurs pour réserver les parcelles. En plus, souvent, ces projets-là sont rachetés ou sont financés par des... Ça coûte très cher, un parc éolien. Donc, c'est des fonds de pension, des établissements financiers privés qui financent ces projets et qui en récoltent les dividendes, qui sont très importants malgré tout. Hein. C'est un très fort investissement, mais c'est aussi de très fortes rentabilités sur le long terme. Donc souvent, ce sont des fonds d'investissement, des fonds de pension étrangers parfois, qui sont propriétaires de ces parcs, et donc la rente issue de l'exploitation de ces parcs éoliens retombe assez peu sur le territoire. Le territoire, finalement, ne récupère que les taxes. Donc c'est déjà pas mal, mais ça reste marginal. Donc nous, on propose et on fait la promotion d'un modèle dans lequel les collectivités, les habitants et les entreprises du territoire pourraient investir. avec Enercoop notamment, avec Énergie Partagée qui est un fonds d'investissement que nous avons créé, un fonds d'investissement citoyen dans lequel les citoyens peuvent investir un peu de leur épargne pour financer des projets d'énergie renouvelable. Voilà. On a vraiment, nous, cette approche collective et citoyenne de rassembler tout le monde autour d'un projet de production. Alors là, je parle de l'éolien parce que dans la région, c'est vrai qu'on a un fort potentiel. On le fait aussi sur des projets photovoltaïques ou des projets de production hydroélectrique. C'est vrai que l'éolien, c'est un petit peu plus marquant. Donc l'idée, c'est vraiment de rassembler tout le monde et que les collectivités ou les habitants aient la main sur le projet, qu'ils soient sensibilisés, qu'ils puissent donner leur avis sur l'emplacement, sur la taille des machines et qu'ils puissent récupérer la rente issue de cette exploitation-là. Il y a d'autres formes de nouveautés effectivement qui se créent dans ce modèle-là. Vous parlez de du territoire sud-artois, la communauté de communes du sud-artois, qui est en train de monter... une SEM, donc Société d'économie mixte, qui appartiendrait, alors c'est en partenariat avec la communauté de communes de Caudrésie-Cotésie, dans le département du Nord. Les deux communautés de communes s'associent pour créer une SEM qui appartiendra à 80% au public, c'est-à-dire aux deux collectivités, et à 20% à Enercoop, Énergie Partagée ou au Club Cigale, donc des moyens citoyens. L'idée, c'est que cette SEM investisse dans chacun des parcs éoliens qui soient sur leur territoire, pour que cette SEM puisse récupérer, et donc les collectivités puissent récupérer des dividendes issus de ces projets éoliens, et pas uniquement ces fonds d'investissement privés dont je parlais tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de maximiser les retombées sur les territoires, et en plus de pouvoir maîtriser un petit peu le développement de ces projets éoliens, de pouvoir un petit peu donner son avis, de dire qu'au lieu de courtiser un agriculteur et de mécontenter son voisin, de faire en sorte de regrouper les deux agriculteurs, les deux terrains, pour que le partage se fasse de façon égalitaire. Voilà. Il y a vraiment une maîtrise du territoire et une maîtrise financière de ces projets éoliens, ce qui n'était pas le cas jusqu'à quelques années. Beaucoup de collectivités s'en mordent un peu les doigts et se disent, zut, si au moment de monter le parc éolien, on avait pu investir, et ben nous récupérions aujourd'hui beaucoup plus de dividendes pour la commune qu'on pourrait réinvestir ensuite dans des travaux de réhabilitation énergétique, etc. Bring power to the people, yeah, that light so you can see. This message is sponsored by Electric Company. On revient au point de vue du consommateur avec la question qui fâche, la question du tarif. Quels sont vos prix ? Alors, nous avons effectivement une particularité au niveau du tarif. On est malheureusement aujourd'hui le fournisseur d'électricité le plus cher du marché. On est aussi le seul à être 100% d'origine renouvelable et en organisant coopérative, mais nous sommes effectivement le plus cher. Alors pourquoi ? Parce que nous payons l'énergie directement. Donc ce sont des contrats de gré à gré que nous avons avec chaque producteur. C'est un achat direct, sans mécanisme de soutien, et c'est le vrai coût, le vrai prix de l'énergie renouvelable aujourd'hui en France. Il n'y a pas de mécanisme de certificat pour verdir une partie, un achat d'une régie nucléaire à bas coût, etc. Nous, c'est vraiment un achat direct. Et on a choisi par ailleurs, contrairement à nos concurrents, de ne pas s'aligner sur les tarifs réglementés. Je rappelle qu'EDF propose des tarifs réglementés, c'est-à-dire avec des tarifs qui sont fixés par l'État. Ce qui est une bonne chose, ça a permis de maintenir les tarifs bas pendant des années, mais aujourd'hui ce n'est plus tenable. Et d'ailleurs EDF augmente ses tarifs réglementés régulièrement. Mais tous nos concurrents ont choisi de s'aligner sur les tarifs réglementés d'EDF pour pouvoir concurrencer EDF. La difficulté, c'est que du coup ils ont vendu à perte pendant quelques années. Nous, on n'a jamais vendu à perte, on a vendu l'énergie à son vrai prix, et le prix aussi qui permettait de faire fonctionner la coopérative. Alors, au début, nous étions 40% plus chers qu'EDF, que les tarifs réglementés d'EDF. Donc c'était vraiment, passer chez Enercoop, c'était vraiment un acte militant assez fort et qui n'était malheureusement pas accessible à tout le monde. Depuis, comme je le disais, les tarifs réglementés d'EDF ont augmenté, augmentent régulièrement pour justement prévoir ces coûts de démantèlement ou de rénovation des centrales nucléaires. Donc EDF a encore augmenté ses tarifs de 5% au 1er août 2013. Nous, nos tarifs n'augmentent pas, parce que les contrats que nous avons avec les producteurs sont fixés dans le long terme. On a peut-être même l'espoir que d'ici 5-6 ans, on puisse même les diminuer avec les progrès réalisés dans les techniques de production d'énergie renouvelable. Donc, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas augmenté. D'ailleurs, s'ils devaient augmenter, ce serait sur décision de l'Assemblée Générale, donc avec les consommateurs qui pourraient donner leur avis. Aujourd'hui, ils n'ont pas augmenté, donc nous sommes passés de 40% plus cher à notre création en 2005, à 20% plus cher aujourd'hui en 2013. Les tarifs réglementés vont encore augmenter de 5% au 1er août 2014. Donc à ce moment-là, on sera plutôt encore à 15% plus cher. Petit à petit, l'écart se réduit. L'exemple qu'on a dans un marché complètement dérégulé, donc sans tarifs réglementés, comme en Belgique, c'est la coopérative EcoPower. C'est vraiment le modèle que nous avons suivi, nous, Enercoop, en France. Et aujourd'hui, EcoPower, dans un marché vraiment très ouvert à la concurrence et sans aucune contrainte de l'État, EcoPower est aujourd'hui le moins cher, hein, parce qu'ils sont propriétaires de leurs moyens de production. Les gens investissent dans ces projets-là sans demander des grands dividendes, pas comme des actionnaires privés. Et donc, ils arrivent à maintenir le coût d'électricité le moins cher de Belgique. C'est notre modèle. Et on pense qu'à terme, d'ici 5 ans par exemple, il est fort possible que nous soyons concurrentiels, voire moins chers qu'EDF.
Alors peut-être c'est voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais la bonne chose d'être plus cher, c'est que finalement peut-être vos consommateurs font plus d'efforts d'économie d'énergie, de sobriété énergétique.
Vous faites bien de mentionner le verre à moitié vide, à moitié plein, parce qu'on a du mal à savoir si nos consommateurs consomment moins une fois qu'ils sont passés chez Enercoop, ou si déjà nous avons aussi une cible qui a plutôt tendance de toute façon à faire attention à sa consommation. Les gens qui ont envie de soutenir le développement des énergies renouvelables ou qui n'ont plus envie d'acheter d'électricité nucléaire, ce sont quand même des gens qui, pour la plupart, ont un minimum de réflexion sur leur consommation, l'impact que ça a sur l'environnement. Donc ce sont des gens qui, en général, font assez attention à leur consommation. Je pense qu'on est le fournisseur dans lequel, effectivement, les consommateurs consomment le moins d'électricité. Alors ça, c'est pour les particuliers, c'est un peu différent pour les entreprises. On essaie par ailleurs de les accompagner, même si ce sont peut-être des particuliers qui consomment moins à la base, on essaie quand même malgré tout de les accompagner, de leur donner des conseils pour réduire leur consommation. On est en train par exemple de mettre en place une offre de formation à l'autodiagnostic, c'est-à-dire il y a une séance où on se réunit à une vingtaine, on donne un identifiant et un mot de passe et toute une méthodologie pour remplir, ainsi que quelques outils pour remplir un petit tableau pendant 3 semaines. Il faut mesurer un petit peu les consommations de chaque appareil. On remplit ce tableau-là et 3 semaines après, on revient en formation pour une session de fin de formation. Et là, on voit l'impact de chaque poste de consommation sur la consommation globale et on voit où sont les pistes de réduction de consommation. Mais c'est vraiment de l'auto-diagnostic, c'est-à-dire qu'on donne les outils aux consommateurs pour faire eux-mêmes leur diagnostic et pour que ça soit pérenne dans le temps et qu'ils puissent le faire en plusieurs fois. Voilà le genre de choses qu'on essaie de mettre en place et ça se renforcera dans les années à venir. Là, on a beaucoup parlé d'énergie renouvelable. Avant même de consommer de l'énergie renouvelable, c'est vrai qu'il est très important pour l'avenir de commencer à réduire nos consommations d'énergie. Alors, sans retourner la bougie, comme on le dit caricaturalement parfois, il ne s'agit pas ça. On est persuadé, nous, aujourd'hui, qu'on peut consommer moins d'électricité tout en gardant un niveau de confort semblable à celui qui au nôtre actuellement.
Guillaume Jourdain, directeur général d'Enercoop, Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Je précise que Radio PFM n'a pas de part sociale dans cette coopérative, mais la démarche d'Enercoop nous semblait intéressante. En tout cas, elle fait réfléchir aux questions énergétiques. Vous retrouverez l'intégralité de ce sujet sur notre site internet www.radiopfm.com. Et puis, on aura l'occasion de reparler de questions d'énergie dans les prochaines semaines sur Radio PFM, puisque plusieurs événements se préparent, comme la fête de l'énergie avec les espaces info-énergie, ou encore la journée mondiale contre l'exploitation du gaz de schiste. Tout ça a lieu courant du mois d'octobre, mais on vous en reparlera d'ici là sur Radio PFM.
How electricity really works. The buildings are made of lightning. Benjamin Franklin in eternal shock. Kite with key in hand after all these years. He is the ghost atop these towers, jumping from peak to peak like Jack Frost or Sandman. Fairy-like from a distance, haggard and shell-shocked up close. His skin sags like muddy bags of rocks hauled from a mine. His clothes tattered and singed, he glows from radiation. It has been so many years. Oblivious to praise in his honor, his chateau in history is vacant, bored with paintings by Danes of make-believe Negroes at ambivalent feet. He discarded letters and chess for fire from clouds, delving in the games of gods, basking in new decadence beyond women in Paris and the death of Indians. Something supernatural, the harnessing of energy. Electricity Man. circuit surfer illuminating home by home at the speed. Philly, New York, beyond, bringing to life toys and boys' bedrooms. A Tinkerbell from hell, a Rumpelstiltskin with weaponry. His neck is still smoking. In wasted glee, he keeps us well lit, alive with syphilis caught from power. His eyes swirl like peppermints gone wrong. This deist, defrocker of Jesus, now frocked in Orisha robes, a sucker for Ishu, Ogla of Ogun, jockeying for position with these gods, stuck in second with Santa Claus. Demigod limbo aspirations kept him alive all these years. General Electric is a loan shark, its hounds and sunglasses wait in Pontiacs to catch Ben, jumping light to light in their line of fire. Old Glow, they call him. Con Ed can't find him, not even by satellite. They take our money with the ambivalence of vacuums. And we pay. Hoping for a glimmer, we drop checks in mail slots like teeth beneath pillows. Dance a little, smile, and praise the crackhead running our appliance. Old Glow got us humming, rubbing raw the carpet, clinging together, ravaged by static, searching for the kite, grabbing at the key.